Gracefield.
Les infos. Vos infos d'ici.
Il est 16h, c'est le moment de vos informations locales et régionales avec Michel Tanganyika. Michel, tout d'abord, on parle d'organismes qui se mobilisent en Outaouais pour la Semaine nationale de l'action communautaire autonome.
Tout à fait. La 24e édition de la Semaine nationale de l'action communautaire autonome s'est déroulée récemment. Pour l'occasion, des organismes communautaires locaux se sont réunis pour préciser à la population et aux élus leur mission et les enjeux auxquels ils doivent faire face au quotidien. La table ronde des organismes volontaires en éducation populaire de l'Outaouais, l'Association de solidarité et d'entraide communautaire de la vallée de la Gatineau, ainsi que le collectif régional de lutte à l'itinérance en Outaouais se sont déplacés à Gracefield, à Chelsea ainsi qu'à Gatineau pour exprimer leur message. Alexandre Galland, coordonnateur du CRIO, explique le fondement de cette journée et son importance.
Aujourd'hui, on tient une série de 3 conférences de presse dans le cadre de la Semaine nationale d'action, de l'action communautaire autonome et dans un contexte d'élection municipale. Dans le fond, ce qu'on veut rappeler aux élus, c'est quoi qu'on fait, les groupes en défense collective des droits. Pourquoi on est là et pourquoi c'est important de répondre quand on les appelle. On est payé par l'État pour être le chien de garde des droits que nous nous sommes donnés en tant que société.
Cette journée a été organisée dans le but de tisser des liens avec des acteurs engagés, d'explorer des initiatives novatrices et de débattre des questions qui touchent la population, selon M. Galland.
On est là pour défendre la cause de l'itinérance. Ensuite, on a aussi la table régionale des organismes volontaires en éducation populaire de l'Outaouais, représentée par Mme Geneviève Tremblay-Racette, qui regroupe tous les organismes qui font de l'éducation populaire et qui, dans le fond, aident les populations vulnérables à mieux comprendre les enjeux qui les touchent et à les mobiliser pour, encore une fois, en arriver à une société meilleure.
Pour le coordonnateur du CRIO, la protection des droits par l'action collective est un fondement vital de notre démocratie et de l'équité sociale. Chaque contribution individuelle est précieuse, étant donné la grande précarité dans laquelle se trouvent les groupes de défense collective des droits.
On a de la difficulté à maintenir nos équipes de travail, on a de la difficulté à maintenir nos activités parce que notre financement n'est pas indexé. Notre financement n'est pas est loin d'être à la hauteur des besoins. Tout le contexte socio-économique, on a besoin que nos droits soient défendus et malheureusement, non, on ne sent pas qu'on est supporté à notre juste valeur.
Monsieur Galland rappelle à la population que les gouvernements doivent reconnaître le rôle fondamental de ces groupes dans la vie démocratique et dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
On parle maintenant de Kitigandzibi qui engage des procédures légales pour revendiquer des terres ancestrales.
Oui, le dossier de revendication des terres ancestrales de la communauté de Kitigandzibi à Anishinaabe a été déposé devant la Cour supérieure du Québec. La poursuite réclame 5 milliards de dollars de dommages et intérêts au Canada, au Québec, à Hydro-Québec ainsi qu'à la Société d'État responsable de la région de la capitale nationale. Selon Jean-Guy Waidoc, chef de la communauté, il n'a jamais été question pour la Première Nation algonquine de céder son territoire ancestral.
La Nation algonquine n'a jamais cédé ses territoires. Durant le régime français, on avait un arrangement avec eux. Après ça, le régime britannique, on a la proclamation royale de 1763. Dit que si les terres vont être prises, ils vont être cédés à la couronne. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait pour les Algonquins. Tous les territoires au Québec et en Ontario, territoires ancestrales algonquins, sont grévés d'un titre autochtone.
Les Algonquins n'ont jamais signé de traité de partage du territoire avec la couronne. Le titre de propriété des Algonquins continue d'exister, précise M. Waidoc.
Les Algonquins n'ont jamais signé de traité que le Canada, le Québec, l'Ontario, il n'y a aucun traité. Alors, tout le développement qui s'est fait sur notre territoire, il a été fait sans nos accords. Et ça fait des années qu'on essaie de réconcilier différentes politiques gouvernementales et ça n'amène aucun résultat. Alors, on n'a aucun choix, mais présenter notre dossier en cours.
Jean-Guy Waidoc est conscient qu'il s'agit d'un long processus judiciaire, mais plus que nécessaire pour la reconnaissance du territoire.
Les zones qu'on a mises en cours ne touchent pas tous les territoires en complet, mais touchent les territoires principalement qui ont été occupés par nos familles, qui sont la Kitigandzibi. Alors, c'est ça qu'on a mis ces secteurs-là en cause. Et on va aller faire la test à la cour pour faire reconnaître le titre. Une fois que s'il est reconnu, il va y avoir un processus de négociation qui va poursuivre.
Actuellement, il y a 10 Premières Nations algonquines reconnues, comptant près de 11 000 membres. 9 de ces communautés se trouvent au Québec, dont 2 dans la vallée de la Gatineau, Soakitigan-Zibi et Lac-Barrière.
On parle de soins à domicile et d'une mesure efficace face aux défis démographiques et sociaux de la région.
Oui, lors de la 4e édition du Salon Outaouais qui s'est déroulé récemment à Gatineau, plusieurs enjeux liés à la population vieillissante de la région outaouaise ont été discutés, dont le maintien à domicile. L'accessibilité aux soins de santé est une réalité pour plusieurs personnes âgées de l'Outaouais. La vallée de la Gatineau n'est pas en reste, puisque le tiers de sa population a 65 ans et plus. Selon Josiane Rochon, directrice de la succursale Bien chez soi de Gatineau Centre-Ville, la population vieillissante et les proches aidants doivent composer avec des listes d'attente interminables pour avoir accès aux services publics.
Les besoins sont tellement grands que malheureusement, la distance aussi fait en sorte que ça peut être un enjeu. Juste pour vous donner un exemple, à Gatineau, quand j'ai commencé l'entreprise il y a 5 ans, les gens que je rencontrais, parce qu'il y a des programmes qui existent aussi avec le CLSC pour avoir une aide financière, puis les gens parlaient d'une attente d'un an entre le moment où est-ce qu'ils portaient l'appel, donc ils voulaient faire l'ouverture de leur dossier, jusqu'au moment où est-ce qu'il y avait une travailleuse sociale qui venait à la maison pour prendre en charge le dossier.
Les compressions budgétaires concernant les services à domicile sont inacceptables, selon Mme Rochon. Les personnes âgées en perte d'autonomie, isolées ou encore malades, en paient le prix.
C'est qu'on sait que les budgets pour les soins à domicile, les soins à domicile doivent compétitionner avec le budget, comme le budget des hôpitaux, tout ça, ça vient tout du même endroit. Fait que c'est sûr qu'au niveau des hôpitaux, les urgences, les chirurgies d'urgence, n'importe quoi, ça va toujours être priorisé dû à l'urgence, tandis que la personne qui vit seule, malheureusement, elle doit attendre et elle doit subir au niveau des coupures beaucoup plus que dans d'autres secteurs de santé.
Pour Marc-André Plouffe, directeur général de la Fédération de l'âge d'or du Québec, région Outaouais, la situation est préoccupante. Il est fier de participer activement à informer la population.
On est vraiment là, nous autres, on est un satellite, puis on essaye vraiment de diriger les gens pour les aider. Puis jamais quelqu'un va nous appeler et on va dire « Désolé, on ne peut pas vous aider », mais on essaye vraiment de les aiguiller vers les partenaires ou avec les organismes avec lesquels on collabore, parce qu'on collabore évidemment avec plusieurs organismes et au BNL. Là.
Le dernier salon FADOC Outaouais affichait complet et a connu cette année une popularité record avec un achalandage de 5 400 visiteurs.